la belle amour.
Donc a commencé le fabuleux décompte qui nous mène tout droit vers le meilleur des mondes. Ce rêve caressé par quelle divinité? Est-ce qu'il y a vraiment là de quoi se vanter? Si c'est elle dont la main un jour nous a tendu le piège de la mort et le fruit défendu, et puis abandonné à nos quêtes infinies, jouées de quelques fées et de mauvais génies. En l'an 2000, l'humanité. En l'an 2000, l'humanité. Loin du pas des Sioux et de la file indienne, du silence des cailloux sous les branches du chêne, les colonnes de fourmis laborieuses qui cavalent, les bouches de métro qui soudain les avalent. Et juste un peu plus loin, les foules de guignols qui avancent au pas, chacun dans sa bagnole, les bousculades en bourse au nom des bénéfices, la queue devant le palais pour un peu de justice. L'angoissé de la nuit dénigrant les étoiles, le vide qui l'attire en refermant sa toile, les circuits intégrés de la grande aventure, la mémoire qui se barre au fond des disques durs. En l'an 2000, l'humanité. L'immigré condamné à sa piteuse planque, le chômeur étonné, refoulé par sa banque, les abris de carton où l'on entre à genoux et notre compassion tant que ce n'est pas nous. Soi-disant pour son grade, et les mains enchaînées sur les ponts de Belgrade, les enfants mutilés dès la première alerte, les peuples exilés au diable en pure perte. Quel peintre illuminé subitement nous brosse ce tableau éhonté, bâclé à coups de crosse, où seul l'or et l'argent sanglant seraient de mise, et d'où va s'évadant notre matière grise. En l'an 2000, l'humanité. En l'an 2000, l'humanité. Mais le soleil se lève, et c'est toi que je chante, toi la femme, la fille, la mère qui enfante si courageusement, en le portant au nu, cet enfant qui sourit sur ta poitrine nue. Je te promets, je reste à tes côtés, je reste complice de l'amour, complice de ce geste, c'est tout ce qui nous reste et qui nous justifie, l'utopie ou la mort ou l'utopie. Je te promets, je reste à tes côtés, je reste complice de l'amour, complice de ce geste, c'est tout ce qui nous reste et qui nous justifie, l'utopie ou la mort ou l'utopie. Thank you.
Plaide coupable. Prends ton poids total. Tu es fou enfermé. Raison déconnecté. On t'attache à ton lit.
À ton lit.
Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse et se passe. Voilà l'autre veneuse. Ta solution aqueuse. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine. Si c'est ça la médecine, je préfère la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, aujourd'hui, mercredi matin, l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va reparler de la CASSE, la Caisse Autonome en Santé et en Soins. Alors, qu'est-ce que c'est la CASSE ? C'est un collectif localisé en Bretagne. Voilà ce qui commence. Il se présente. Elle se présente. Nous fonctionnons via des dons ou événements de soutien, et on essaie de s'interroger sur le rapport aux soins via des discussions, rencontres et infokiosques. Cette caisse vise à soutenir financièrement les personnes précaires au sens large dans leur parcours de soins. Dentistes, kinés, dermatologues, psychologues, psychiatres, orthoptistes, gynécologues, etc., etc. Nous avons fait le choix de garder une certaine vigilance par rapport aux pratiques de soins non conventionnels qui ne collent pas aux conventions de ce qu'on estime comme nécessaire pour être considéré comme de la médecine, en particulier lorsque celles-ci représentent des risques de retard de prise en charge sérieuse du problème, d'éloignement de la médecine, d'emprise ou de dérive sectaire. En dehors de toute approche dogmatique et sans a priori théorique, nous privilégierons les pratiques dont l'efficacité des résultats est avérée par suffisamment d'études sérieuses. En ce sens, pour certaines demandes, on pourra être amené à vous demander plus d'infos sur les types de soins que vous désireriez que l'on finance. Parallèlement, nous souhaiterions constituer une liste de praticiens et de praticiennes et réseaux d'aide fiable, toujours ouvert donc, et ouverte à vos propositions. Nous sommes une caisse non subventionnée et avons donc toujours besoin de votre soutien pour exister. N'hésitez pas à nous aider financièrement. Qui sommes-nous ? On est un collectif de personnes intéressées par les questions de soins et santé. Nous sommes concernés en tant que patients, notamment en psychiatrie. Notre rôle premier est avant tout de récolter de l'argent pour remplir la caisse de solidarité via des soirées de soutien et des dons et de les redistribuer, cet argent selon les demandes aux personnes précaires au sens large pour leurs soins de santé en Bretagne. Ces personnes nous contactent via une boîte mail. Les événements de soutien nous permettent aussi d'échanger ensemble sur ces questions. Nous sommes peu nombreux, nombreuses dans le collectif et nous essayons de faire selon nos capacités. C'est aussi pour cela que nous invitons parfois différents intervenants et intervenantes pour tenir des stands d'infos, animer des ateliers ou discussions pendant nos événements. Nous avons organisé plusieurs soirées, mais aussi un CASSE-Fest en 2023. Avec beaucoup d'ateliers pendant un week-end sur les addictions, l'arrêt du tabac, le validisme, la mémoire traumatique et plein d'autres thèmes grâce à des assos et de super intervenants et intervenantes. Si tu as besoin de bénéficier de notre aide, écrivent donc les organisatrices de la CASSE, contacte-nous à l'adresse suivante. Alors bon, je ne donne pas l'adresse parce que c'est quand même local, c'est en Bretagne. Faites donc le principe est celui-là que la personne qui fait appel à eux et à elle doit faire un, un topo sur le type de soins dont il, elle, a besoin et la somme qu'il lui faudrait. Et les informations partagées, bien sûr, restent entre nous, disent-ils. Nous n'avons pas besoin de justificatif, ajoute-t-elle. Voilà, et donc la CAS était présente à la Mad Pride 2025 à Brest. Et là, on a le podcast de la CAS dont nous vous proposons d'écouter l'épisode 2, une partie de l'épisode 2, puisque nous n'avons qu'une heure, à moins que l'on dépasse un peu. L'épisode 1, j'en avais diffusé une partie, enfin une grande partie, il y a quelques mois de cela, qui étaient des témoignages qui ont répondu aux questions suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire le soin pour toi? Quel est ton parcours de soins? Est-ce que ça te paraît facile d'aller chez un ou une soignante? Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Qu'est-ce qui te fait du bien dans la vie? Et puis, voilà. Donc, c'était un peu une interview d'une personne. L'épisode 2, aujourd'hui, c'est sur l'accès aux soins en Bretagne. L'accès aux soins en Bretagne, un témoignage de proches des organisateurs TRIS, de patients et de patientes, et de soignants et de soignantes. Vous allez entendre une infirmière qui travaille dans un centre d'insertion sociale et d'hébergement à Guingamp, des porte-paroles du collectif de défense de l'hôpital de Guingamp, des sons de manif, une personne qui témoigne de ses problèmes de santé ces dernières années à la campagne, un ami psychiatrisé, un autre ami étudiant en psychopathologie qui témoigne de son expertise sur l'état du système de soins et de la psychiatrie en France aujourd'hui, et un kiné qui exerce dans les monts d'Arrée et s'intéresse à la santé communautaire. Oui, donc il se peut que nous dépassions un petit peu le cadre d'une heure d'émission. Et vous pourrez entendre les musiques de Pose Mama, Fishback, Traître, et peut-être aussi Jean-Yann et Fréhel, et Plux of Pink Indians. Donc nous vous souhaitons une bonne écoute de ce deuxième épisode du podcast de la CAS.
Ok, alors là j'enregistre. On a eu une longue conversation où je n'avais rien enregistré. C'est la magie du podcast amateur.
Pierre, deuxième prise.
Le podcast qui suit parle d'accès aux soins de santé en Bretagne. J'ai choisi d'interroger mes proches et d'autres patients, mais aussi des soignants-soignantes. Vous allez entendre une infirmière qui travaille dans un centre d'insertion sociale et d'hébergement à Guingamp. Des porte-paroles du collectif de défense de l'hôpital de Guingamp. Des sons de manif. Mon frère, qui témoigne de ses problèmes de santé ces dernières années à la campagne. Un ami psychiatrisé. Un autre ami, étudiant en psychopathologie, qui témoigne sur l'état de santé du système de soins et de la psychiatrie en France aujourd'hui. Le club du troisième âge et un kiné qui exerce dans les monts d'Arrée et s'intéresse à la santé communautaire.
T'es un peu zinzin, c'est ça?
De toute façon, faisant n'importe quoi, parce qu'après on...
Maintenant, on va boire une petite tisane.
Voilà, c'est ça, on peut faire du bruit avec nos tasses.
Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal.
On reste comme ça.
C'est correct, pas de médicaments.
C'est top.
Pas de cachet pour dormir. Non, qui dit mieux?
Bah ouais, c'est super.
On dort bien.
J'ai des cachets méchants qui ne vont rien embellir.
Pour commencer ce podcast, je me suis rendue à la maison de l'Argoite à Guingamp. C'est le lieu où je viens chercher mon courrier presque toutes les semaines, comme bon nombre de mes amis. C'est souvent de drôles de moments où l'on croise des personnes qui zonent à boire des cafés et discutent avec le personnel d'accueil. C'est eux qui attendent pour laver leur linge grâce aux machines à laver mises à disposition. C'est eux qui viennent faire leurs papiers. J'avoue n'être jamais rentrée dans l'espace Point Santé du centre qui propose un accueil gratuit, anonyme, pour celles qui le souhaitent, avec l'une des deux infirmières, avec ou sans rendez-vous, et avec une psychologue sur rendez-vous. J'y retrouve Sandra, qui a accepté de répondre pour le podcast.
Donc moi, je m'appelle Sandra Gobin, je suis infirmière depuis plusieurs années. Je travaille actuellement sur le Point Santé de la Maison de Nargouatte. Auparavant, j'ai fait du milieu hospitalier, du domicile, donc du libéral. J'ai travaillé également en entreprise. Voilà. Donc, le Point Santé est un service spécifique d'accompagnement médico-social sur le territoire du pays de Guingamp, qui vise à favoriser l'accueil, l'accompagnement des personnes en situation de précarité sur le volet sanitaire et l'accès aux structures de droit commun. Le Point Santé, donc, on a pour mission l'accueil, l'information, l'orientation et la sensibilisation et l'accompagnement des personnes pour construire leur projet santé. Donc, le public accueilli, c'est un public de plus de 18, enfin, majeur, normalement, ou avec enfant, mais si il y a un suivi au niveau d'un des parents. Alors, le Point Santé est spécifique parce qu'en fait, on suit les personnes accueillies par la Maison de Nargouatte et accompagnées par la Maison de Nargouatte, puisque sur la Maison de Nargouatte, on a plusieurs services, dont des chantiers d'insertion, un accueil de jour. Les gens ne sont pas forcément hébergés à la Maison de Nargouatte. On a cette spécificité où on est en capacité et en droit de suivre les gens qui ne sont pas du tout en lien avec la Maison de Nargouatte. Voilà, c'est tout public en fait, enfin, toutes les personnes... du territoire de Guingamp et voire même plus. Il y a plusieurs personnes qui sont suivies que par le Point Santé. Quoi.
Ok. Ouais.
Donc en fait, le public, c'est public précaire, ou avec les minima sociaux toujours.
Mm-hmm. Ok. Et comment ça se passe pour accompagner les personnes, par exemple, si elles ont un problème spécifique, vous essayez de trouver les soignants adaptés par la suite?
Alors, on a un rôle aussi sur le Point Santé d'orienter,
ouais.
Hein, donc vers les structures de droit commun, enfin les professionnels de santé de droit commun, donc ça peut être des médecins généralistes, des spécialistes. On a aussi pour mission d'accompagner, donc quand la personne a du mal à s'y rendre seule ou a du mal à prendre ce rendez-vous-là, on peut être dans l'accompagnement. Alors, ça peut être un accompagnement lors des entretiens, mais ça peut être aussi un accompagnement physique.
Ouais.
Si la personne a peur d'aller seule à son rendez-vous médical, ça peut être... on peut accompagner la personne.
C'est une chose.
Et effectivement, bon, ce qui permet d'avoir un suivi après, ou même... Alors après, accompagner, c'est pas forcément tout de suite, parce qu'il y a tout un travail avant à faire. Travail de création de liens avec la personne, voilà, qui est indispensable.
De confiance aussi, peut-être.
Voilà, de lien, de confiance, voilà.
Ouais.
Ouais. Donc, ce qui est important de dire, c'est que bien évidemment, bon, on est lié au secret, hein, donc ce qui rentre dans le bureau ne sort pas du bureau, bien évidemment. Et puis, on a aussi un rôle de coordination, un peu, avec... pour un meilleur suivi, en fait, de la personne. Donc, on va coordonner, par exemple, quelqu'un qui, suite à une consultation médicale, aurait différents rendez-vous à prendre avec différents professionnels de santé. Notre rôle, ça va être aussi un peu de coordonner tous ces rendez-vous et le suivi de ces rendez-vous, en fait. Donc, voilà. Et puis, un gros volet également... du Point Santé, enfin des missions du Point Santé, c'est aussi le volet ouverture de droit. Donc, c'est-à-dire que des gens qui n'auraient pas de droit au niveau de la CPM, l'assurance maladie, ou au niveau de la MDPH, donc Maison Départementale pour Personnes Handicapées, enfin voilà, on est amené aussi à faire ces ouvertures de droit-là, ou une pension d'invalidité, ou enfin des choses comme ça.
Ouais.
On est amené à... toujours accompagner la personne à faire ce dossier. Donc, on fait bien évidemment jamais à la place d'eux, mais toujours avec la personne.
Et vous suivez beaucoup de personnes ici sur Guingamp ?
L'année dernière, il y a eu plus de 1000 passages sur l'année. On peut être amené à voir une personne une fois et puis elle peut ne pas revenir pendant plusieurs mois. Et puis, ou voire même des années, et puis d'un seul coup, elle va revenir.
Ouais.
Et puis, certaines personnes qui, elles, à un moment T de leur parcours, vont avoir ce besoin de venir sur le point santé plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine, enfin voilà. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, on accompagne la personne aussi parce que l'un des objectifs, c'est vraiment l'orientation vers les structures de droit commun. Mm-hmm. Alors, parfois, il arrive qu'il n'y ait personne sur le point santé.
Ok. Hein,
parce que, voilà, on a aussi des accompagnements, enfin...
Ah bah oui, si vous...
Des accompagnements partir. À l'extérieur, des choses comme ça. Mais bon, on arrive toujours à... Si ce n'est pas le jour J, le rendez-vous, enfin, on arrive toujours à reprendre contact avec la personne si elle a des besoins particuliers. On essaye de repositionner un rendez-vous relativement rapide. Et puis...
Voilà.
Alors, bien évidemment,
c'est le problème,
si on pouvait avoir plus de moyens, ça, c'est sûr que ce serait plus confortable.
Ouais.
Maintenant, aujourd'hui, voilà, on a les moyens qu'on a, donc c'est un peu compliqué, quoi, parfois. Hein, d'autant plus qu'actuellement, sur le territoire de Guingamp, je dirais même dans les Côtes d'Armor, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de généralistes, il n'y a plus de dentistes, il n'y a plus...
Ouais.
Donc c'est compliqué. Alors on essaye d'avoir des partenariats, mais bon c'est compliqué parce que c'est pareil, ils ont une file active très importante, donc c'est hyper compliqué, quoi. Donc quand il y a nécessité d'une prescription médicale, il faut forcément que la personne aille voir un médecin, parce que nous en tant qu'infirmières on ne fait pas de prescription. Donc voilà, donc on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais bon, parfois ça peut mettre un peu de temps. Mais bon, on essaye de pallier aux difficultés, aux manques qu'on a sur le territoire.
Je pensais à ça. Est-ce que vous suivez des formations par rapport à l'accueil, des fois, comme... je sais qu'au planning familial, des fois, on proposait accueil des personnes trans ou ce genre de formation.
Alors, on a la possibilité de faire des formations professionnelles. Moi, dans mon cadre, j'ai beaucoup fait de formation sur les addictions, sur la prévention du suicide, tout ce qui est souffrance et pathologie psychiatrique également. Donc voilà, après, par rapport au... Non, on n'a pas eu... Mais on pourrait faire la demande. On travaille également en lien avec le CARUD, qui vient faire des permanences sur l'accueil de jour une fois par semaine. On travaille aussi avec, au mois de novembre, j'ai mené une action là avec Tabac Info Service. Enfin voilà, on essaye en fait sur le point santé de vraiment démystifier, pour créer du lien, c'est démystifier la position en fait du professionnel de santé. Ce qui facilite en fait après
le lien
qui est indispensable, quoi, pour...
Ouais, c'est chouette. Est-ce que vous avez des freins budgétaires un peu, ou... Est-ce qu'il y a des changements par exemple ces dernières années ou pas trop et...
Alors, c'est vrai que côté budget, je ne peux pas dire. Mais bon, c'est toute la difficulté qu'il y a. On aimerait bien avoir plus de budget, quoi. Mais toutes les structures aimeraient. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Mais, bon, voilà.
Et du coup, vous avez entendu parler... des manifs en ce moment à l'hôpital de Guingamp, la fermeture de la maternité, là. Vous avez un peu participé ou...
Non, alors sincèrement, j'ai pas participé, mais je veux dire, le mal-être à l'hôpital, il existe depuis plus de 30 ans, quoi. Moi-même, j'ai travaillé à l'hôpital. Chaque domaine a ses difficultés, hein. Il y a des difficultés qu'on a actuellement aujourd'hui sur le point santé qu'on n'a pas forcément à l'hôpital. Mais je veux dire, à l'hôpital, c'est aussi... c'est des choses qui existent depuis des années, quoi. Donc le problème, c'est qu'on travaille avec de l'humain, donc on est là pour les gens, donc avec le public, donc il faudrait qu'on prenne quand même ça en considération, quoi.
Ouais, c'est sûr. Quand vous avez travaillé en structure hospitalière, est-ce que vous étiez dans un service particulier ?
Je suis diplômée depuis 30 ans en tant qu'infirmière. Donc moi, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était volontaire. Donc en fait, moi, au départ, j'ai fait de l'intérim pour voir un petit peu tout et partout. Donc j'ai fait une multitude de services, de jour, de nuit. Enfin voilà, ça a été mon choix de ne pas m'installer dans un service et ne plus en sortir.
Okay.
Donc j'ai fait beaucoup, ouais, beaucoup de services. Donc j'ai jamais été très posée et voilà, j'avais ce besoin de changer, de voir plein de choses, d'acquérir des compétences différentes. Donc voilà, travailler de jour, travailler de nuit, dans des différents services, différents établissements, enfin voilà. Le travail que je fais là sur le point santé, école d'infirmière, c'est pas connu, on vous apprend pas ça. Hein.
Ouais.
Alors je sais pas si aujourd'hui on vous apprend différemment les choses, mais je veux dire, infirmière, c'est quand même un poste atypique. Alors, pas forcément par rapport au public, mais par rapport à ce qu'on vous demande de faire et à vos missions. Alors, si, c'est le soin. Mais un soin détourné. Enfin, on arrive au soin, mais...
C'est l'accompagnement, quoi.
Voilà, c'est l'accompagnement au soin, l'acceptation du soin. Il y a tout un travail à faire. En fait, quand vous travaillez à l'hôpital ou vous êtes en libéral, on vous appelle... On vous demande pour un soin et la personne accepte déjà d'emblée ce soin.
Vrai, ouais.
Alors que là, sur un point santé, non.
Oh.
Vous savez que la personne a besoin de soins, mais elle n'est peut-être pas rendue au stade d'accepter le soin. Donc il y a tout un travail avant qui peut durer des mois, voire des années. Donc, peut-être que maintenant, sur les écoles d'infirmières, il y a un peu plus cette prise en compte de... du psychologique.
Cette période un peu tu t'es rendu compte que c'est quand même pas ce que tu t'imaginais et tout ça.
Alors la technique me manque toujours.
Ouais.
Ça je vais pas me cacher. La technique me manque toujours. Par contre la prise en charge est différente.
Mmh.
Et on a plus de temps, on prend du temps avec les gens.
Ouais, ça c'est chouette quand même.
Ce qui est indispensable. Voilà. Pour que la personne accepte correctement une démarche de soins, il faut du temps. On voit bien ce qui ne va pas chez la personne. Et on se dit, là, il y aurait ça, ça, ça. Mais la personne, elle ne veut pas forcément, quoi. Donc, voilà. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est garder du lien avec la personne. Qu'elle se rappelle que le jour où elle est prête ou le jour où elle a besoin, qu'elle peut revenir vers le point santé. Et c'est ce qui se passe parfois. C'est vraiment en fonction de la personne, quoi. Et avec la personne.
Ouais.
Parce que moi, je ne ferai pas sans la personne.
Ça, c'est important.
Donc, si effectivement, elle me dit non à quelque chose, ça sera non.
Mm-hmm.
Et quand bien même, de toute façon, arriver à l'hôpital, on n'oblige pas les gens. Voilà.
Mm-hmm. Ouais, c'est sûr.
Par contre, il faut prendre du temps pour qu'ils acceptent. Donc, voilà. Après... tout ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux, quoi. Mais je pense que au même titre, le point santé, au même titre que tous les services de la maison de la Rouette et des structures comme les nôtres, je pense que c'est ce qui aussi permet de faire avancer la personne, quoi. Mais il faut prendre du temps, il faut aller à son rythme à elle et pas au rythme que nous on souhaiterait.
Ouais.
Ah c'est clair. Et c'est ça, à l'hôpital, vous avez ce rythme et puis vous savez que vous avez 15 injections à faire. Vous faites vos 15 injections, vous avez tant de temps pour les faire. Et limite, on n'en est plus à la personne si elle accepte que vous la piquez, quoi.
Ouais, c'est ça aussi.
Voilà, le médecin a dit qu'il y a une prescription, voilà, la personne est à l'hôpital. Limite, ils sont tellement surbookés et on leur demande tellement de choses que... on finit par déshumaniser. En fait, au lieu de parler de monsieur untel dans la chambre tant, on va parler du numéro de chambre.
Ouais.
Non, mais c'est ça, quoi.
Ça
existait déjà.
Ouais.
Il y a 20 ans, quoi.
Fin avril 2023. Manifestation devant l'hôpital de Guingamp. suite à la suspension des accouchements du service de la maternité.
Juste quelques mots, on va pas vous assommer. Bon, c'est le début de la suspension ce soir, la suspension des accouchements. Comment dire ? On en a gros sur le cœur, ça s'entend. On n'est pas des lapins de 3 semaines, l'intention de l'ARS, elle est fermée à terme. C'est forcément ça. Nous, par contre, on ne sera pas d'accord. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, c'est notre hôpital. On le garde avec une maternité, avec un service de chirurgie H24, avec des urgences H24. Ouais ! La maternité, c'est toujours le premier maillon. Hein. D'accord ? Donc, on renouvelle notre soutien, tout notre soutien à une équipe qui est formidable. Merci à vous ! La suspension, 1 mois, 2 mois, vous avez compris. Hein. Donc, il va falloir qu'on maintienne la pression pendant tout ce temps. Tout le monde peut prendre sa part dans ce combat pour notre hôpital. C'est notre patrimoine qu'ils sont en train de gaspiller, qu'ils sont en train de détruire. C'est ce qu'ont construit nos parents, nos grands-parents avant nous, qu'on doit transmettre à nos enfants. Et ça, ils sont en train de le péter, sous nos yeux. C'est clair que... Il y aura une mobilisation régionale. Mobilisation régionale, on a déjà une date. Donc, régionale, ça veut dire qu'on va contacter tous les autres comités, on va les inciter à venir se battre avec nous, parce que la case, elle est générale. C'est tous les côtés que ça tombe. J'ai pas l'habitude de lire des discours, vous savez, en général, mais j'ai juste un petit texte à vous lire. C'est une lettre. Bon, la lettre, j'ai pas le droit de vous la lire, parce qu'en fait, elle m'est pas adressée. C'est une lettre qu'on m'a transmise en 2011, un petit peu avant la naissance de ma fille. Et c'est une lettre qui m'a été transmise par la sage-femme. La sage-femme qui nous avait accompagnés pour la naissance de Yann. Bonjour Yann, bonjour Estelle et Jean-François. Voilà l'histoire de cette naissance. Vue avec mes yeux de sage-femme, j'ai choisi de ne pas changer un mot de ce texte écrit quelque temps après ta venue au monde. Même si, aujourd'hui, mes formulations seraient probablement autres. Aussi, j'espère que ces quelques mots trouveront leur place dans ton histoire. J'espère également qu'ils ne viendront pas perturber les souvenirs de tes parents. C'est la première fois qu'un des bébés qui a bien voulu naître entre mes mains peut lire son histoire vue avec mes yeux. Je te souhaite, je vous souhaite, du bonheur tout plein et une belle nouvelle aventure avec cet enfant qui arrive. C'était Loïsa qui arrivait. Donc voilà, c'est ça la maternité de Guingamp. C'est une maternité de niveau 1, c'est une maternité qui répond aux besoins du territoire, c'est une maternité qui sait accompagner les femmes et les familles, c'est une maternité irremplaçable. Là, vous savez ce qu'ils ont en tête, hein. Les nuits d'hôtel, les transports sanitaires, c'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on veut, c'est du service, c'est de l'humain. L'humain d'abord, cette maternité, on y tient, elle est à nous, elle est à nous.
On va leur montrer, on va défiler, on va faire le max de bruit dans Guingamp. On vous invite à suivre au nom de l'Assemblée des luttes de Guingamp.
Pour poursuivre, vous allez entendre Pierre témoigner des problèmes de santé récents auxquels il fait face et des difficultés qu'il rencontre pour accéder à une prise en charge rapide à la campagne, faute de services et de matériel adapté.
Radio Libertaire, nous écoutons un extrait du podcast de la CAS, la Caisse Autonome de Santé. En santé et en soins de Guingamp. Donc, c'est l'émission L'Entonnoir.
Je m'appelle Pierre, j'ai 43 ans. Et donc, dans les choses que je voulais aborder, j'ai eu par exemple des maux de tête pendant des mois et des mois. Un peu moins d'un an, je pense, mais voilà, pas loin. Mais voilà, en fait, moi, ces maux de tête, là, c'est venu un peu lentement. J'en ai pas parlé à mon médecin, en fait. J'en ai parlé à mon beau-frère, qui est neurochirurgien. Et on est passé tout de suite sur de la pathologie, entre guillemets, un peu grave. Donc, il m'a fait faire un scanner. Sur le scanner, il y avait une suspicion de tumeur cancéreuse. Du coup, un IRM était demandé pour confirmer. Et donc ça n'a pas été confirmé, en fait c'était une erreur de lecture. Le problème dans toutes ces choses-là, c'est les délais en fait entre les différents scanners, IRM et tout ça, qui peuvent être très longs, et du coup il y a tout un stress avec ça, alors que bon, il n'y avait rien. Et finalement, ça s'est réglé avec un rendez-vous opticien et j'avais juste besoin de lunettes. Ces délais-là, moi, j'ai pu les raccourcir un peu, du coup, grâce à mon beau-frère. Et aussi parce que j'allais en région parisienne faire les imageries. Et là, on a des rendez-vous très courts. Mais bon, c'est évidemment pas donné à tout le monde de pouvoir voyager déjà, aller prendre le train. Enfin, faut pas travailler, faut prendre une journée. Enfin, ça peut être compliqué, quoi. Mais les délais, c'était pas tenable, en fait, ici en campagne. Pour un scanner, je pense qu'il faut attendre plus de 6 mois pour un scanner ou un IRM. Enfin, peut-être pas un scanner, un IRM, en tout cas, c'est sûr. C'est un IRM mobile qu'on a ici. Qui navigue entre les hôpitaux, quoi. Donc c'est une journée tous les mois, je crois qu'il est là, ou une après-midi tous les mois.
Il n'y a pas un IRM à l'hôpital de Guingamp qui est là tout le temps, quoi.
Non, c'est un camion. On monte dans un camion. Ça. Okay. Ouais, ça coûte trop cher, et puis voilà, ça devrait pas, en fait. Et je vois, en région parisienne, on appelle, on a un rendez-vous dans la semaine qui suit. C'est vraiment l'usine aussi, il faut dire. Hein. Ça défile, quoi. Il y a une salle d'attente bien remplie aussi, et il y a beaucoup de monde, quoi. Beaucoup, beaucoup. Pour faire un IRM, au lieu d'attendre 6 mois pour avoir un résultat,
je
suis capable d'y aller. Maintenant, ça dépend du caractère de chacun aussi, quoi. Moi l'attente m'énerve beaucoup.
Je pense que l'attente pour un IRM, pour savoir si t'as un problème aussi grave que cancer ou quoi, c'est un peu stressant quand même, quoi.
Oui, c'est ça. Oui. Ouais. De toute façon, c'est stressant quand on est dans la douleur, qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, je peux vous rassurer, les IRM étaient très bons. Mon cerveau va bien. Mais du coup, voilà, les lunettes, c'est pareil. Je vais en région parisienne parce que j'étais là-bas et en fait, j'ai continué à aller là-bas parce que les délais sont très faciles. C'est très court. C'est très facile d'avoir un rendez-vous. C'est un problème bénin, en fait, mais du coup, qui a causé tout un tas de choses en parallèle, un peu longues, enfin un peu difficiles du coup, disons, pour moi surtout.
Ouais.
Et sinon, moi j'ai un autre souci qui me dure depuis une vingtaine d'années. J'ai des problèmes de dos que j'ai eu très récemment. Je suis artisan en fait et j'ai travaillé toujours physiquement. Et du coup... J'ai ces soucis de dos là depuis 20 ans, disons, qui ne m'empêchaient pas vraiment de travailler ou juste une journée par-ci par-là. Et puis, peut-être ça fait bien quand on est artisan, qu'on est un mec, qu'on a pas mal, on continue à bosser, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on normalise, en fait. Faut être fort. J'ai pu entendre des phrases, moi, pas dans mon apprentissage, parce que j'étais à l'école, mais après, chez mon premier patron... J'étais maréchal ferrant, donc on tenait les pieds des chevaux. Plutôt mourir que lâcher, par exemple. Donc, je pense qu'on n'est jamais assez fort pour tenir un cheval. J'aimerais autant lâcher que
mourir. C'est pas mourir sur scène, c'est mourir en tenant le pied d'un cheval, quoi.
Voilà, donc je pense que ça peut expliquer toutes les pathologies qu'on retrouve chez les artisans. Là. Un artisan qui a pas mal au dos, c'est un artisan qui est mort. Enfin, ce genre de choses-là, c'est bien.
Wow, ouais.
C'est aussi en train de changer. Hein. Bon, moi, je pense que j'ai connu la période charnière, du coup.
Ouais.
C'est aussi en train de changer, peut-être moins vite aussi. Maçonnerie, maréchalerie, c'est des métiers où il y a... En maréchalerie, en tout cas, il y a très très peu de femmes. Il y en a, hein, mais très peu. Et donc, ça reste quand même très, très masculin. Et il faut le dire, très macho. Hein. Mais quand même, c'est vrai qu'on voit un changement. Hein. Les gens n'ont plus les mêmes discours, et ça, c'est une bonne chose, c'est sûr. Et du coup, voilà. Alors, depuis 3 ans, moi, j'ai pas pu travailler à cause de ces soucis de dos qui sont accentués, en fait. Du coup, j'ai mes chantiers qui sont bloqués. Je suis au RSA là depuis 3 ans. Et puis, j'habite dans un mobilhome parce que... je voulais rénover mon habitation. Et donc, voilà, si je ne peux pas bosser chez les autres, j'ai dû me faire une raison, je ne peux pas travailler chez moi non plus. Donc, ça, voilà, c'est 3 ans de prise en charge. Encore pareil, radio, scanner, IRM. Les IRM en région parisienne, encore une fois, pour la raison citée plus haut. J'ai eu un test de corset rigide pendant 6 mois. Et oui, il y avait un bien-être avec le corset, donc... Du coup, suite à ça, on a envisagé une opération pour bloquer les vertèbres. En préopératoire, j'ai aussi fait un stage de rééducation du rachis. Moi, ça fait un an et demi là que j'ai été opéré. Et j'ai toujours, toujours ces douleurs là. Je peux toujours pas travailler ou avoir une activité un peu longue. Malgré le fait que l'opération a été très bien menée, moi je suis sorti beaucoup plus vite de l'hôpital que ce qui m'était annoncé. Du coup, je me suis dit qu'en 3 mois ça allait être bon parce que ça m'était annoncé ça, de 3 à 6 mois de convalescence. Et en fait, là ça fait un an et demi et j'ai pas de solution envisagée en fait. Du coup, voilà, pour ces soucis-là, quoi. Bon, en parallèle, c'est vrai qu'on peut parler de l'attente, quoi. J'en ai parlé un petit peu déjà, mais tout, hein, même kiné, je vois là, en post-opératoire, j'ai pas pu avoir de kiné. C'était pas des rendez-vous longs, c'était pas du tout. À la fin, j'en ai trouvé un parce qu'il exerce dans le même cabinet que mon médecin traitant et que je lui ai expliqué que j'étais autonome, je faisais déjà les mouvements. Parce que je me suis pris un peu en charge tout seul en post-opératoire, comme il n'y avait personne. Et donc la kiné a bien voulu me recevoir, pour voir si je faisais pas de bêtises, mais juste du coup 2 séances, quoi. Mm-hmm. Et surtout pas toutes les séances qui étaient préconisées. Parce qu'ils sont débordés, il n'y a pas de... Ils prennent pas de nouveaux patients, donc... ou pas de nouveaux clients, presque, on peut dire aujourd'hui, je sais pas trop.
Ouais.
Et du coup, bah voilà pour ça. Moi, je voulais parler aussi de la CMU parce que, évidemment, là, comme j'ai plus de rentrée d'argent, bah, j'avais plus de mutuelle, plus rien. Mmh. Je suis à la CMU. Et bon, on peut en dire ce qu'on veut. J'ai entendu beaucoup de gens râler sur la CMU. Moi, je l'ai fait aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai qu'on a les lunettes bas de gamme, que c'est pas. Parce que tout coûte aujourd'hui, donc on mélange la finance et le soin, donc voilà. Ça devrait pas être, mais c'est comme ça. Mais ceci dit, j'ai rien eu à dépenser depuis que je suis à la CMU. Et c'est un bon acquis qu'on a là, quoi. C'est sûr que
ouais.
tout le monde, enfin, ça devrait être comme ça pour tout en fait. Hein. Ça devrait pas exister, les mutuelles privées.
Est-ce que tu aurais envie de parler d'un système de soins qui te paraîtrait plus fonctionnel avec ton expérience là que tu as eue
Exactement, en fait, c'était un peu mon dernier point. Moi, je trouve que la santé devrait pas pouvoir être privatisée, en fait, comme le transport, comme l'énergie, en fait. C'est des choses, tout le monde en a besoin. Et ça devrait être que de la fonction publique, avec un salaire fixe. Un bon salaire évidemment, hein, mais tout le monde devrait avoir un bon salaire de toute façon. Et on devrait pas on a séparé l'église et l'État là, je sais pas quand, au Moyen-Âge peut-être, je suis pas sûr de ça moi, mais voilà, on pourrait séparer aussi la finance et la santé et arrêter tout ça et que tout le monde ait accès à tout soin en fait. Dans les soignants que j'ai pu voir, en tout cas moi, on parle d'antalgie et autres, mais pas de problèmes mentaux, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai que y a un impact psychologique qui est indéniable, quoi. Dans des douleurs un peu longues, des fois on est un peu au fond du trou, hein, c'est sûr, on sait pas trop quoi faire. D'autant plus quand, comme moi, on a potentiellement été soigné et les douleurs sont encore là. Donc, pour qui, pourquoi voilà, c'est la douleur, elle est là. Alors bon, on peut se poser tout un tas de questions, quoi. Est-ce que c'est somatique? Est-ce que il y a autre chose derrière? Est-ce que l'opération a bien marché? Enfin, toutes ces questions-là peuvent être mélangées. Et c'est vrai que on en parle pas beaucoup, hein, du côté psychologique, c'est sûr.
Ouais.
Entre amis, on en parle. Plusieurs personnes m'ont parlé de ça, m'ont posé ces questions-là, mais les médecins, les soignants n'ont jamais parlé, quoi. Mais après, ça dépend du caractère de chacun aussi. Mais en tout cas, même quand on a un caractère plutôt bien fait pour ça, entre guillemets, ça existe, quoi. C'est forcément là. Et, ouais. Et ça, c'est sûr qu'on n'en parle pas, ouais.
Et peut-être aussi, comme on se connaît... Je me dis que peut-être s'il y a des choses qui t'ont aidé par rapport à cette douleur, comme je sais que tu fais souvent de la musique, j'imagine qu'il y a des choses qui te font du bien et que tu vas peut-être pas aller vers un psychologue ou quoi, et peut-être essayer de trouver autre chose qui te fasse soit changer les idées, soit te procurer du bien-être. Et je pense que la musique, en fait, c'est un truc qui marche aussi, quoi.
Ah bah ça, ça a été salvateur, c'est sûr, hein. Bah la musique, moi j'en suis persuadé. Après la musique, parce que moi c'est ça, mais Un autre loisir, c'est très bien aussi, hein, quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait...
Ah ouais, le sport, c'est sûr, ouais.
Qui
ouais.
fait autre chose, un peu importe quoi, en fait.
C'est comme si j'avais pas le choix, comme une thérapie pas chère. Ezeké et le cafard, le rap a piqué ma chair. J'm'en fous de la fin depuis le départ. Moi, j'crache du feu, j'enchaîne les freestyles.
On reste sur Plougonvert voir les locaux. Et cette fois, j'ai voulu entendre la parole des personnes âgées vivant sur la commune. Le club du troisième âge, c'est une réunion mensuelle, parfois précédée d'un goûter puis des jeux. À cela s'ajoutent trois repas par an, ainsi que les concours de boules du canton de Billy-Lanterre. Le club s'organise aussi avec le CCAS, entre autres, pour des activités diverses. Marche à pied, gym et équilibre, cours de cuisine, etc. J'ai pu rencontrer entre autres Alexine, Lisette et Marcel, qui ont témoigné des changements et du manque de structure dans la commune.
Alors aujourd'hui, c'était un repas pour le club du troisième âge à la salle des fêtes. Du coup, moi, j'ai rendez-vous à 16h30. Je suis un petit peu en avance. J'avoue que j'ai un peu peur parce que je crois que c'est la première fois que j'interviewe des gens que je connais vraiment pas. J'ai surtout interviewé des proches pour l'instant. Et bon, après, je me dis que comme j'ai grandi dans ce village, c'est possible en fait que je reconnaisse certains anciens que j'ai connu quand j'étais petite. On verra bien. Et alors, les filles font des dominos et les gars jouent aux boules. Alors, bah, ça a l'air très genré tout ça. J'espère que les gars vont m'accepter aux boules parce que moi, j'aime bien jouer aux boules.
Vous jouez aux cartes ?
Ouais, oui, il faut, ouais.
Oh, c'est quoi ? Vous jouez à quoi ?
Belote.
Bonjour. Je vous connais, non ?
Oui, mais moi je te connais aussi. Mais...
Ouais.
J'ai vu toute petite comme ça.
Exact, c'est vrai. Ouais.
On habitait à côté de toi, tout près.
Oui, je me souviens.
Bien, je sais pas si vous connaissez, on s'est rencontrés. Je suis le père de Manu.
Ah oui, oui, ça y est, mais oui, bien sûr. Ce que je vous disais, mais je vous connais. Hein. Oui. C'est comment ? Vous vous appelez
Marcel,
comment ?
Marcel Elias.
Ok. Si tu veux, pour commencer, je peux déjà te demander. Bah peut-être de te présenter, oui. De dire quel est ton rapport à la santé, si tu as des problèmes de santé dont tu voudrais parler.
Donc, personnellement, c'est Marcel, donc je suis un ancien agriculteur. J'ai 85 ans cette année, donc je suis né, j'ai vécu à Plougonvert comme agriculteur et je suis en retraite actif depuis une vingtaine d'années. Au point de vue problème santé, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là pour l'instant. Par contre, je vois au point de vue dentiste, c'est un constat. Ouais. J'ai connu ici donc Plougonvert il y a 60 ans,
ouais.
Où on avait tant au point de vue santé qu'au point de vue autrement commercial, commerce, tout, on avait tout sur place.
Ah ouais, il y avait des dentistes ici, quoi.
On avait un dentiste, pas permanent, mais qui assurait une permanence toutes les semaines, donc ici, sur Plougonvert. On avait un médecin qui était présent à Plougonvert en plein temps.
Ah
on
oui.
avait, parce qu'il y a une médecine animale, alors on avait un veto, on avait tout, notaire, tous les commerces, tout. Et donc c'est pour situer donc, l'évolution en 60 ans. Maintenant, on ne les retrouve plus au niveau de la petite région. Parce que ça commence un problème, même sur Calac, qui est notre petit Calac ou Belle-Île. Eh bien, on a bientôt, Calac, il n'y a plus de dentiste.
Il n'y a plus de dentiste, c'est ça, non ?
Oui, il n'y a plus de dentiste, donc elle vient d'arrêter. Donc, ce qui était, c'était ma dentiste.
Ouais.
Je me demande aujourd'hui où je vais pouvoir trouver, même si demain j'ai un problème dentaire, où je vais en trouver ?
Oui, c'est sûr.
Je m'interroge parce que voilà, c'est l'un des problèmes. Au point de vue médecin sur le secteur, on a encore la chance pour l'instant à Calac d'avoir trois docteurs, je crois, qui officient. Mais on constate de plus en plus, ils ne sont plus remplacés.
Oui.
Je vois le problème de maternité, c'est d'actualité sur Guingamp.
Oui.
La maternité, vient de fermer, soi-disant temporairement.
Mm-mm.
Mais malheureusement, je ne vois pas comment il va pouvoir reprendre. Parce que le problème qui se pose, le problème est récurrent, on ne trouve plus les professionnels de santé sur Guingamp. Ils ne sont pas là pour assurer le minimum au point de vue sécurité, donc au niveau d'une maternité. Comment résoudre ce problème ? c'est un problème général, c'est un problème de fond de la société qui se pose. J'ai connu une période où, donc j'étais agriculteur, mais enfin c'était dans tous les métiers, où pour survivre ou pour vivre, à l'époque, on travaillait pratiquement tous les jours, 365 jours par an, même de permanence, 24 heures sur 24. Enfin, dans notre profession, c'était le cas. Lorsqu'on avait des bêtes ou autres, lorsqu'il y avait des problèmes sur le cheptel, il fallait bien qu'on soit là pour assumer. Mais on est passé d'une société, maintenant, ça, je peux comprendre certains aspects, on recherche une certaine qualité de vie, mais on arrive au point de rupture dans la société aujourd'hui. Avoir son week-end, je comprends qu'on souhaite avoir son week-end, qu'on voit se libérer, mais matériellement, ça nous pose inversement le problème, donc on veut se retrouver près des... lorsqu'on a des enfants, pouvoir se retirer de la vie active de temps en temps, et c'est tout le problème. Comment le résoudre? C'est un problème de société qui se pose.
Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a aussi un problème peut-être de priorité gouvernementale, de ne pas mettre assez de moyens dans le soin et peut-être plus de moyens ailleurs et...
Oui, enfin, qui dit les moyens, ce sont d'abord des moyens humains. Aujourd'hui, il y a une carence sans doute dans ce qu'on appelle le cursus numerus, et c'est ce qu'on appelle donc les entrées en faculté de médecine étaient limitées, ouais. Donc ce qui a provoqué une pénurie de médecins et autres chez nous. Donc en principe, c'est une formation qui est quand même payée par l'État ou par nous-mêmes, par les impôts. Donc il faudrait exiger peut-être qu'à l'issue de leur formation, qu'ils aient obligation aussi d'assurer un service minimum, de s'implanter dans des secteurs où il y a le plus besoin. Ouais. C'est une priorité absolue. Donc je pense que ça pourrait être l'une des issues, des façons de maintenir un minimum de services.
Est-ce que... Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui... Enfin, moi, en tout cas, si je parle pour moi. Mmh. C'est sûr que j'ai pas vécu de travailler comme ça à des heures pas croyables. Et je pense que j'ai plutôt une qualité de vie correcte depuis que je travaille, quoi. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même un peu cette envie de justice sociale et de mieux répartir les richesses. Et que ça, c'est quelque chose qu'on entend fort quand même dans... déjà ton temps, en fait, enfin, que c'est quelque chose que les gens aimeraient, quoi.
Oui.
Surtout les plus pauvres,
oui.
Évidemment,
oui.
Parce que les plus riches, je pense qu'ils s'en fichent un peu, justement, ils en profitent de ça. Du coup, est-ce que ça serait pas plutôt que justement de se dire donner de son temps parce que voilà, ça fait partie du travail et que bon, ça serait entre guillemets normal aussi qu'à des moments ça soit hyper dur et voilà. De se dire que peut-être aussi il y a un problème de répartition de ces richesses et de moyens par-delà aussi, quoi. Finalement, c'est toujours un peu les plus pauvres qui se fatiguent à la tâche, quoi.
Oui.
Les agriculteurs, les soignants, c'est pas non plus... Enfin, les infirmiers, c'est pas les mieux payés, quoi, dans ce pays-là, quoi.
Oui, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on est au bout de l'échelle. Donc, tout le monde se sert et on doit assumer la responsabilité à la base... avec ce qui nous reste lorsque les autres se sont servis.
Ouais.
Et c'est le cas, lorsque vous dites qu'on vous fait votre facture, c'est que tout le monde s'est servi avant, chacun a fait sa propre facture, sauf celui qui est au bout de l'échelle, si c'est l'agriculteur ou c'est la personne qui travaille à la base.
Ouais, c'est sûr.
Donc il faut qu'il fasse avec ce qui reste.
Ouais. Ouais.
Et ce qui explique qu'il y a des moments où, effectivement, où... on est correctement payé, il y a d'autres moins bien, il y a d'autres où on n'a pas du tout de salaire.
Bah ouais, ça c'est quand même pas normal.
Et c'est le système, c'est ce système économique là qui explique cela. Quoi. Oui.
Ouais.
Alors comment le résoudre, c'est la responsabilité, c'est la société, mais comment est-on arrivé de la société de Pouron Vert, puisque nous sommes sur Pouron Vert, où on avait cet ensemble qui vivait, on vivait modestement, mais où chacun, on vivait, on était aussi
sans doute, on n'avait pas le bien, certain bien-être qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas d'électricité, pas d'eau. J'ai connu cette période-là.
Ouais.
Mais où il y avait une certaine solidarité, un certain esprit entre les gens, de communion et de convivialité. Et tout le monde vivait dans une société assez, finalement, assez harmonieuse
ouais.
à l'époque. Et on est passé à une société aujourd'hui où on n'a plus les services, même le minimum au point de vue santé, on ne l'a même plus. On dit que le progrès, ça n'a pas été un progrès dans tous les sens. Au point de vue humain, ça n'a pas été un progrès.
Ça, c'est sûr. Oui, carrément. Voilà. Je suis d'accord de dire qu'il y a un problème global et sociétal qui se répercute sur le soin, notamment dû au système économique. Et effectivement, je pense que les humains tendent vers l'individualisme. Cela dit, il me semble que ce qu'il faut questionner, c'est la course au profit des plus riches, au détriment des autres qui se chiffonnent en bas de l'échelle sociale. Personnellement, je ne trouve pas de sens à perdre ma vie à la gagner. J'ai passé 10 ans à faire partie des travailleurs du spectacle et à bosser pour des metteurs en scène avec des budgets colossaux qui écrivent des textes sans fond. Là où la plus petite compagnie amateur, avec le même budget, aurait peut-être créé quelque chose de magique, qui sait. J'ai du mal à trouver du sens dans le monde salarié, surtout quand il est très éloigné des réalités de vie des plus précaires. J'imagine alors que l'agriculture a un sens comme ce que décrit Marcel. Mais pourquoi donner 24 heures sur 24 de son temps pour nourrir d'autres qui passent leur vie dans des châteaux et qui parfois, pour passer le temps, écrivent des pièces de théâtre qui ne parlent qu'à une petite partie de la population? Pour ce qui est de la maternité de Guingamp et du manque de personnel, j'ai choisi de vous faire entendre une interview de Yann Fange-Durand qui fait directement écho aux hypothèses de Marcel et qui explique l'hypocrisie de cette crise à l'employé, orchestrée par des décisions hiérarchiques et relatées par les médias.
Avec nous, Yann Fange-Durand, coprésident du comité de défense de l'hôpital de Guingamp. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes avec nous ce matin. La décision, elle est tombée hier soir. Est-ce que vous vous y attendiez?
C'est une demi-surprise parce que nous savions, parce que nous sommes en contact avec l'équipe, qu'elles sont épuisées. Et on pense d'abord à elles parce que vous le comprenez, c'est vraiment une équipe formidable et c'est une équipe qui a été vraiment mise à mal par des décisions et ça c'est insupportable. Je pense aussi aux mamans, notamment certaines qui nous avaient accompagnés il y a quelques jours quand nous sommes invités pour rencontrer Madame Noguera, qui ne nous a pas reçus mais qui nous a confié à son directeur adjoint, Monsieur Laoucine, qui a fait de belles promesses. Donc maintenant on sait bien ce que valent les promesses de l'ARS, ces promesses hein, qui il leur a affirmé qu'elles pourraient accoucher à Guingamp sans problème et qu'elles pouvaient inviter leurs amis à le faire et tout. Donc évidemment, on est toujours entre deux, on se dit « Ah, peut-être qu'il ne faut pas faire trop de bruit parce que ça va dissuader les mamans de venir. » Eh bien voilà, en fait, on se fait balader par ces gens-là. Donc nous, on veut pointer les responsabilités. On l'a fait dans une lettre ouverte que nous avons adressée dès lundi à Madame Noguera puisqu'elle ne nous a toujours pas reçue. Nous dénonçons la loi Buzyn qui est le cadre qui permet la fermeture des maternités et des services de chirurgie dans des dizaines d'établissements en France. Nous dénonçons la pseudo-concertation qui a été engagée par l'ARS avec Madame Bénard, la directrice de l'hôpital Pio. Dès décembre 2021, ils avaient décidé d'avoir un seul scénario qui était la fermeture. Et ils osent prétendre que c'est parce que nous faisons trop de bruit que les sages-femmes ne viennent plus à Guingamp. C'est indigne de leur part.
Justement, Yann Fange-Durand, l'ARS pointe du doigt des difficultés de recrutement, des difficultés à remplir les plannings. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, je réponds simplement qu'il n'y a pas de pénurie de sages-femmes en France. S'il y a une pénurie de sages-femmes à Guingamp, c'est parce qu'elle est organisée. Il y a eu, je le rappelle aussi, des entretiens individuels que Mme Bénard, la directrice de l'hôpital Pivot de Saint-Brieuc, a menés dès janvier 2022 à Guingamp, notamment avec les sages-femmes, pour leur proposer, ni plus ni moins, de choisir entre Lannion et Saint-Brieuc. Et ces gens-là passent leur temps à expliquer aux gens que c'est fini, que ça... Et après, ils viennent dire « Ah non, moi, jamais parlé de fermeture ». Ce sont des manipulateurs. Ils ont un agenda. L'agenda, c'est de recentraliser l'offre de services publics des hôpitaux en France. Et donc, point par point, ils le font. Ils déroulent leur agenda.
Merci.
Donc, il y a une absence manifeste de recrutement, de politique de recrutement à Guingamp, et on la paye maintenant. Il est hors de question qu'on en reste là.
Le projet de loi Buzyn sur la santé en France propose une réforme des études de santé, la révision de la carte hospitalière, un accès élargi aux données de santé, une régularisation des médecins étrangers et étrangères, entre autres. Il doit être adopté d'ici à l'été 2023 pour réformer en priorité les études de santé et la carte hospitalière. Le contenu de cette loi et ses répercussions restent encore très imprécis.
ce qui inquiète certains médecins et élus locaux et crée pas mal de tensions, comme ici à Guingamp. Alors pourquoi ? C'est une loi écrite dans l'urgence et elle est très floue. La révision de la carte hospitalière laisse planer le doute sur les intentions réelles du gouvernement en matière de renforcement territorial de l'offre de soins. Si plusieurs mesures peuvent être perçues comme positives quant à la dimension territoriale de l'accès aux soins, comme par exemple la suppression du numerus clausus à la rentrée 2020, ou l'accent mis sur l'exercice concerté des professionnels de santé, ou encore le déploiement de la télémédecine. Ces mesures sont tout de même notoirement insuffisantes pour régler le problème de l'impossibilité pour nombre de citoyens de consulter un médecin dans des délais raisonnables. Les inégalités territoriales s'accroissent et le temps médical disponible diminue. Il est donc urgent d'envisager les moyens de réguler les installations de médecins. Comme l'explique la journaliste Mathilde Gouanec sur Mediapart, le secteur hospitalier comprendrait, d'une part, de gros centres universitaires de pointe, avec d'importants plateaux techniques et des médecins spécialistes dans leur domaine, et d'autre part, un maillage d'hôpitaux de proximité concentré sur les soins courants et la gériatrie. Le gouvernement entend donc le faire par ordonnance, et les craintes sont assez fortes concernant les critères de sélection et de réorganisation des établissements. Les hôpitaux et maternités de proximité sont aux premières loges. Plus que jamais, nous devons défendre notre conception de ce que doit être un site hospitalier de proximité. Médecine, chirurgie, maternité et centre IVG, laboratoire, radiologie dotée d'un scanner. La crainte, c'est que la labellisation vienne légitimer la fermeture de services que des territoires entendent conserver. On commence déjà à voir la machine avancer et détruire notre système de soins de proximité. D'abord Paimpol, puis Dinan, Carhaix, ensuite Guingamp, comme Redon. Le rapport écrit par le docteur Yves Ville à Paris vient donner une légitimité aux projets gouvernementaux. Extrait d'un texte écrit par Adémat H, Association pour le maintien de la maternité de Rémy Raymond dans les Vosges, le 15 mars 2023. Ce rapport Ville préconise la fermeture de pas moins de 111 maternités de niveau 1. Les maternités de niveau 1, c'est celles qui ne prennent pas en charge les grossesses pathologiques et qui font moins de 1000 accouchements par an. Les maternités deviendraient des centres périnataux de proximité sans accouchement, donc. Les arguments invoqués sont de deux ordres, les mauvais résultats périnataux, stables depuis 20 ans, et la démographie médicale et paramédicale à l'hôpital. Pour la démographie médicale, on compte aujourd'hui en France 1000 gynécologues obstétriciens de plus qu'il y a 10 ans, et le nombre de sages-femmes n'a jamais été aussi important, plus de 25 000. Mais on observe une désaffection des carrières hospitalières en raison de la financiarisation du management hospitalier. Effectifs réduits au maximum sans prise en compte des congés ni arrêts de maternité non remplacés, changement de poste au jour le jour, préjudiciable au suivi et à la qualité des soins, perte de sens dans le travail, maltraitance institutionnelle voire harcèlement et burn-out. Fermer des maternités n'est pas le sujet. Ce rapport montre clairement que les facteurs de risque de mortalité maternelle sont la non-présence d'un gynécologue obstétricien sur place et l'accouchement en établissement privé. Donc aucune raison de fermer encore des maternités de proximité, si ce n'est pour des raisons financières et budgétaires non avouées. En conclusion, ce rapport est hors sol et méconnaît l'excellent travail accompli dans beaucoup de petites maternités qui sont au plus près des patients-patientes avant, pendant et après l'accouchement, et qui évite une prise en charge dépersonnalisée, fragmentée et délétère des femmes autour de la naissance, et qui font œuvre en cela d'une véritable mission de santé publique.
Donc voilà, tout va être centralisé, la recentralisation est en marche.
Et oui, et c'est donc un extrait du podcast de la CAS, Caisse Autonome en Santé et en Soins. Donc je précise, hein, nous sommes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans maître de la Fédération Anarchiste, et c'est l'émission L'Entonnoir. Donc la CAS, Caisse Autonome en Santé et en Soins, en Bretagne, collectif de personnes intéressées par les questions de soins et santé, concernées en tant que patients et patientes, notamment en psychiatrie. Cette association met en lien des personnes qui demandent des soins et des soignants qui ont des pratiques de soins conventionnelles, c'est-à-dire dont l'efficacité des résultats est avérée par suffisamment d'études sérieuses. Ce lien se réalise grâce à la caisse, nourrie par des événements festifs ou des dons, et qui permettent aux personnes précaires d'assurer leurs soins en Bretagne. Et c'était donc l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Nous vous disons à une prochaine fois. Et nous allons écouter un peu de musique. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste.
Héros depuis l'enfance, on vit sans penser à l'offense. Héros depuis